Eh bien, on va passer au monde du développement.
Voilà. Alors, toi, Fabien. Les classes. Qui fait du développement ici dans la salle en plus de faire de l'IT? Ah, ouais, ok. Quand même certaines personnes. Donc, bon, ce que je vais vous parler là, ça va vous paraître classique dans du C#. Maintenant, dans PowerShell, ça vient juste d'arriver, c'est tout nouveau. Dans la version 5, ça marche dans certaines previews, il y a des choses qui ne marchent plus dans la preview suivante. Voilà, il faut... Pascal disait tout à l'heure qu'on peut utiliser la V5 en prod. Certaines choses, c'est sûr, les classes, certainement pas. Quoi.
Oui, je me suis laissé un peu aller.
Par contre, une chose est claire, c'est que les classes vont nous apporter des outils de travail qui vont aller au-delà du simple objet PowerShell. En fait, on va pouvoir vraiment créer ce dont on a besoin sans passer par des PS Custom Object ou des choses comme ça et les réutiliser dans tous ces scripts. On va agrandir les cas d'usage de PowerShell. On va pouvoir typiquement créer des ressources DSC sans passer par l'utilisation de fichiers MOF. Hein, je ne sais pas si certains d'entre vous créent des ressources DSC pour vos clients dans votre quotidien, mais c'est quelque chose qui est assez frustrant de devoir passer par un fichier supplémentaire pour créer sa ressource. Les classes vont permettre de répondre à ce problème-là. Quoi. Typiquement, elles ont été implémentées en majeure partie pour ça dans PowerShell. Alors je vais vous montrer pour l'instant ce qui est disponible et après on fera une petite démo pour vous montrer un peu comment ça marche avec les nouveaux mots-clés qui ont été mis en place, etc. dans PowerShell. Alors pour le moment, on a deux disponibles. Ouais, merci, ça c'est cool. On a des propriétés, voilà, classiques, je pense que ceux qui font du développement connaissent. On peut créer des méthodes, on peut créer des énumérations, on peut utiliser le mot-clé statique pour ces variables. On peut utiliser des constructeurs, utiliser des overloads dans nos méthodes, créer des attributs et forcément, comme je vous le disais, créer des ressources DSC. Voilà, ça c'est ce qui marche actuellement, c'est ce qui marche bien et que vous pouvez utiliser dans vos scripts, même sur de la production. Quoi. On va retrouver maintenant des choses qui fonctionnent, qui de temps en temps se mettent à ne plus marcher, suivant si vous installez PowerShell V5 sur un Windows VNext ou sur un 2012 R2 ou sur un Windows 8.1. Voilà. C'est pas encore fonctionnel, mais ça va venir et c'est à la roadmap en tout cas. C'est les choses qui vont exister. Quoi. Donc on aura de l'inhéritance, on aura de la visibilité, vous pourrez mettre des propriétés en lecture seule, créer des namespaces, utiliser le mot-clé using, créer des attributs custom et retourner des collections en sortie d'objets. Quoi. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui ne marcheront jamais et qui ne sont pas prévues et qui ne comptent pas mettre dans les classes PowerShell. Libre à vous après de le créer avec du .NET en allant plus loin. Mais en natif, vous ne pourrez pas utiliser des méthodes ou des classes qui dépendent d'un type. Vous ne pourrez pas utiliser les expandos, donc vous ne pourrez pas ajouter dynamiquement des propriétés dans un objet, dans une classe déjà créée, si vous voulez. Et des nested types, voilà les choses qui ne sont pas prévues et qui n'arriveront potentiellement jamais, en tout cas dans la V5. Je ne vais pas m'engager à vous dire que ça n'arrivera jamais dans PowerShell, mais actuellement, voilà ce qu'est la roadmap. Je vous propose une petite démo, donc si tu peux switcher sur mon PC. Ouais, vas-y. Alors, hop. Les classes. Un nouveau mot-clé est apparu, donc classe, hein, ça ne s'invente pas pour créer des classes. Donc toujours pour appeler une classe dans PowerShell, ça n'a pas changé, vous mettez le nom de votre objet entre crochets. Hop, attends, je vais faire un petit CLS quand même, parce que là c'est un peu... Voilà. Donc pour créer une classe vide, de manière très simple, vous mettez classe, le nom de votre classe, et vous l'appelez entre crochets, voilà ce que ça nous donne. On voit bien qu'elle est passérialisée, qu'elle est publique, avec son nom, sa base type, etc. Pour créer une énumération, rien de plus simple, vous faites énum, le nom de votre énumération, voilà, cette session vous la trouvez géniale, excellente, inoubliable. C'est une session, hein. Et vous exécutez tout ça. Et on retrouve bien donc, les numéros qui correspondent aux valeurs qu'on a données. Voilà, rien de bien compliqué hein, pour ceux qui font du développement. Dans PowerShell, c'est quand même des notions qui sont vraiment nouvelles. Hein. Si vous n'êtes pas développeur, faut s'y coller à ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal au début. Et on peut aller plus loin, on peut créer carrément des objets avec des méthodes, avec des choses beaucoup plus poussées. Donc on va déclarer des propriétés, on peut typer la propriété, integer, booléen, hein, on le voit, du string, on peut mettre des tableaux, On peut utiliser des propriétés statiques, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut même dire qu'elle n'est pas typée et PowerShell va s'occuper de typer la variable une fois qu'on va la renseigner. On le voit tout de suite dans la méthode void. On va créer une méthode attended plutôt, avec on va lui passer en paramètre le i, hein, ça ne s'invente pas non plus. Et on va aller tranquillement remplir les différentes propriétés qu'on appelle dans cette méthode. Et vous voyez, la variable m, je ne l'avais pas typée, je vais pouvoir lui passer le résultat d'une commande let en fait, dans mon objet. Quoi. Donc si j'exécute tout ça, voilà ce que ça donne. Je me retrouve avec mon objet qui est créé, et avec les propriétés suivantes id, place is booked, name, speaker, et m qui est vide. Donc je vais l'instancier maintenant, je vais l'instancier cet objet, je vais en créer un nouveau, voilà. Donc je me retrouve avec, dans ma variable a, mon objet, et m qui n'est toujours pas défini, mais du coup maintenant je peux utiliser ma méthode, et voir que, si je fais ça, voilà, mon ID a changé, ma place est bookée, et donc la place 35 de cette salle est prise, tout simplement. Avant, quand vous créiez un objet sur PowerShell, vous aviez droit au septentiel, enfin, au classique PSObject, PSCustomObject ou des choses comme ça. Vous ne pouviez pas aller plus loin que ça. Maintenant, si je vais voir... je vais faire un getMember, c'est mieux. Voilà, on est sur un type name d'objet qui est le nom de la classe qu'on a créée. Quoi. Voilà, avec les méthodes et les propriétés qu'on lui a définies. Quoi. La différence avec ça, où on était sur des choses beaucoup plus classiques, en tout cas pour nous. Voilà, on était sur du système management d'automation, et derrière, on arrivait à appeler le place custom object. Voilà. Juste une petite démo pour vous montrer qu'il est possible de faire vraiment des trucs très très poussés. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Liome, c'est un mec qui bosse dans l'équipe PowerShell, qui a l'origine des plus grosses nouveautés, on peut le dire, hein, je pense, de PowerShell. Enfin, c'est une tronche, le gars. Il a fait un petit script, hein, qui est assez sympa qui fait des choses très avancées avec les classes PowerShell. Voilà ce qu'on peut faire avec du PowerShell maintenant. Quoi. Voilà. Je me mets au défi de le faire sans les classes. Vous appuyez sur la barre espace, ça change, vous faites des pauses. Voilà. C'est juste pour vous montrer.
Et tout ça en texte. C'est des points, quoi.
Tout ça, c'est des points qui se déplacent, ouais, bien sûr. Ouais.
Comme quoi, nous aussi, on peut faire de la 3D. Hein. Il n'y a pas besoin.
Je te laisse reprendre normalement. Je crois que c'est à toi.
C'est effectivement à moi. Donc, autre petite chose. Convert from string.
Pardon.
Un sanglier dans la salle.
Non, mais j'en voyais un là-bas qui dormait.
Donc oui, le problème que j'ai, moi, en tout cas, je ne sais pas si tout le monde l'a, c'est que les expressions régulières, c'est compliqué.
Ah, je te rassure, j'ai le même problème.
Donc analyser un fichier texte, des données qui sont en texte, qui sont plus ou moins bien structurées, etc., c'est pas très très simple. Donc il y a Microsoft Research qui a travaillé depuis un moment sur une techno qui s'appelle Flash Extract, qui permet justement de traiter, de lire ces expressions, ces données textuelles assez volumineuses, et puis leur donner un sens, et puis de les structurer. C'est-à-dire de trouver des enregistrements avec des champs qui ont des noms, des propriétés qui ont des noms, de façon à organiser un petit peu les données lues dans le texte. Donc, Convert from String bénéficie directement de ces travaux de Microsoft Research, d'une façon finalement assez élégante et assez simple. Donc, c'est du parsing basé sur l'exemple, c'est-à-dire qu'on va dire au système, voilà, ce texte-là, tu vas l'interpréter en suivant cet exemple. Et on prend quelques morceaux, quelques parties du texte d'origine, et puis on isole quelques champs, quelques données, quoi, et on va dire, voilà, ça c'est telle propriété, ça c'est telle autre propriété, ça c'est telle autre propriété. Et en mettant suffisamment, parce qu'il y a des cas qui vont être un petit peu différents, vous allez mieux comprendre avec l'exemple, un petit peu différents entre les exemples, le système pourra comprendre et réappliquer le même schéma sur tout le fichier. Sans la complexité des expressions régulières, en apprenant au système la forme des données, etc. etc. Donc il y a des cas qui sont très simples et qu'on peut très, très simplement passer par un format CSV pour le lire, avec la fonction import CSV. Ça, c'est certes toujours possible, mais dans certains cas, ça va être un petit peu plus compliqué d'utiliser un fichier CSV. Donc, premier exemple, ce que j'ai affiché ici, donc je vais le refaire, netstat-aon, c'est la commande netstat qui affiche les connexions et les ports ouverts, les connexions TCP, TCP ou UDP, et les ports ouverts en écoute sur une machine. Donc on voit qu'il y a une liste assez importante, et on voit qu'il y a des formes différentes. Il y a des adresses IP V6 qui ont une forme différente des adresses IP V4. Il y a parfois des numéros de port, mais parfois il y a des étoiles. Parfois il y a des colonnes qui n'y sont pas. Là, il n'y a pas de listening, il n'y a pas de state, d'état de la connexion. Des PID, des fois ils sont là, bien alignés, puis des fois, boum, ils sont tout là-bas parce que les lignes sont trop longues à cause des adresses IP V6. Donc à analyser tout ça avec du texte, de l'importation CSV, c'est pas immédiat. Bon, je pense qu'on aurait pu se débrouiller, mais c'est pas aussi immédiat, c'est pas très simple, quoi. Donc comment on va faire avec convert from string? Donc l'idée, ça marche comme ça. Donc on exécute la commande netstat-aon, on récupère sa sortie dans une variable, peu importe, on la récupère dans PowerShell. Là j'exécute ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est je vais prendre le tableau, je vais prendre la sortie de netstat, de la commande netstat, je vais enlever les trois premières lignes parce qu'elles ne m'intéressent pas, c'est les en-têtes où il y avait les en-têtes de la sortie, quoi, pour m'intéresser qu'au contenu. Donc j'enlève les trois premières lignes, les quatre premières lignes, de 0 à 3, et je compte à partir de 4, d'où la petite manip là, A, 2, et je prends les lignes de 4 à la fin, jusqu'au bout. Et je pipe ça, donc convert from string. Et convert from string, je lui donne quoi? Je lui donne un template. Ensuite, je pipe ça dans select object pour choisir quelles colonnes je vais afficher. Et ensuite, pour que ce soit plus clair pour vous à l'écran, je balance ça dans OutGridView qui va me présenter ça dans le mini Excel, le tableau graphique de PowerShell. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le template. Donc le template, il est comment? Donc je vais le charger ici, le template de netstat-aon, edit. Donc le template, c'est ça. J'ai pris quelques lignes de la sortie de netstat, et puis j'ai décrit ce qu'il y avait dedans. Donc j'ai dit, par exemple, TCP ou UDP, là qui est au début, c'est un protocole. Et puis l'étoile, c'est pour dire que c'est là où on va déterminer qu'on passe à un nouvel enregistrement. C'est quelque chose qui peut être répété dans le fichier, donc c'est là que débute notre enregistrement. Dans notre enregistrement, on a un truc qui est en fait une adresse locale. Donc je l'appelle local address, c'est moi qui décide de l'appeler local address. Donc remarquez la syntaxe, c'est ça qu'il faut noter et utiliser. Il y a des accolades, il y a des deux points, on dit voilà, ça c'est un local address, et c'était ce fameux 0000 que j'ai eu dans le texte. Le nombre d'espaces ici est important, c'est pour dire tu as rencontré un truc qui est un protocole, ensuite tu as vu trois espaces, et ensuite tu as rencontré un truc que moi j'appelle local address, ensuite tu as vu deux points, ici. Ensuite tu as vu un truc qui était 135, moi j'appelle ça un local port, etc., etc. Pareil pour la suite. Je l'ai répété un peu quelques fois pour prendre en compte tous les cas qui peuvent être un petit peu compliqués à comprendre pour le système. Par exemple, j'ai mis le deuxième pour expliquer que des fois, il n'y avait pas que des zéros, ou je ne sais plus quoi. J'ai mis ce cas-là pour expliquer que des fois, c'est des adresses IPv6, donc il y a une syntaxe particulière avec les crochets. Et puis, il y a aussi les cas où il n'y a pas de state, listening ou established, etc. Oui, ce genre de choses. Et puis pareil pour les étoiles aussi, je lui ai dit, bon, tiens, ça c'est un exemple un peu étrange avec des étoiles, mais c'est la même chose. Donc vous voyez, à partir de quelques lignes, finalement, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 10 minutes de faire ce template, ou 5 minutes. Peut-être 10 minutes parce que je découvrais le truc et j'étais un peu mauvais. Mais voilà. Et donc si j'exécute ça, c'est magique. J'obtiens une liste d'objets qui sont structurés, qui ont des champs, dont j'ai décidé des propriétés, c'est ça le terme, propriétés. Voilà, dont j'ai décidé le nom, protocole, local address, local port, etc. Et là, m'a bien mis les trucs dans les cases.
Ce qui est bien là-dedans, hein, c'est que le fichier template, il est lisible, il est compréhensible. Alors que vous mettez une ligne de regex qui fait 52 caractères, bon courage, quoi. Enfin, voilà, ça nécessite certaines doses de café et des trucs pas très légaux pour réussir à comprendre ça, parce que le mal de crâne après...
Donc là, vous allez me dire, bon, j'aurais pu faire ça, je sais lire une ligne de texte, quoi, mais je le faisais avant en VBScript ou en C, on a déjà fait ça. Cela dit, quand on a des choses comme ça, donc ça, c'est un vrai document que j'ai récupéré sur Internet, tout ça, un gros document, qui liste, c'est la liste officielle des en-têtes, des débuts d'adresse MAC. quand les trois premiers octets des adresses MAC correspondent à un constructeur qui a acheté, qui a réservé ces adresses MAC. Donc 000, c'est Xerox. Si je descends dans le fichier, je sais pas, voilà, il y a Ice Corporation qui a le 0041, et puis il y a Microsoft qui en a aussi, il y a Apple qui en a aussi. Voilà, donc ça, c'est le fichier, un vrai fichier d'exemple. Remarquez que c'est plusieurs lignes déjà. Donc il va falloir décrire. Donc je vais charger à côté le template que j'ai fait à partir de ce fichier-là. Ma souris ne veut plus marcher. Elle est partie en vacances. Voilà. Elle marche quand elle veut. Voilà. Donc le fichier d'origine et puis le template que j'ai fait à côté. Donc pour le template, j'ai pris quelques enregistrements. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pour dire, ben voilà, il y a différents cas qui sont un petit peu différents. Par exemple, c'était important de passer à celui-là, parce que là, l'adresse MAC contient une lettre, alors que précédemment, ça contenait que des chiffres. Il fallait lui dire, parce que si on ne le disait pas, ben, il ne savait plus quoi faire avec une adresse MAC qui avait des lettres. Donc, il ne reconnaissait pas une adresse MAC. Donc, il faut lui dire, ben, ça, même quand il y a une lettre, c'est aussi une adresse MAC. Et puis, il y a aussi le nombre de lignes là, qui peut être variable dans les adresses des constructeurs. Donc là bon, ils ont tous quatre lignes, mais des fois, ça varie. Puis, je n'ai pas tout pris. Hein. J'ai pris compagnie, donc le nom de l'entreprise. C'est pareil, il faut mettre plusieurs exemples, parce que quand la compagnie contient des virgules ou des espaces, tout ça, il est un peu paumé. Donc, il faut lui dire que ça, c'est bien le nom d'une compagnie. Et puis, j'ai pris que le country, le pays. Pareil, avec quelques exemples un petit peu différents. Si j'avais voulu aller jusqu'au bout, j'aurais très bien pu analyser l'adresse. Alors, ce qui est intéressant dans cette syntaxe avec des accolades, donc je ne l'ai pas fait, mais c'est possible à faire, on peut imbriquer les trucs. Par exemple, je peux faire une accolade dans laquelle je vais dire « ça, c'est une adresse ». Puis à l'intérieur, ah ben, ça, c'est la rue. Dans la rue, il y a le numéro et puis le nom de la rue, etc. Puis ensuite, il y a le code postal, etc. etc. On peut descendre dans cette finesse-là pour dire ben, « ça, c'est le nom de la boîte, ça, c'est l'adresse, ça, c'est la deuxième partie de l'adresse ». Ça, c'est le code postal ou je ne sais pas quoi, etc. etc. On peut aller jusque-là. Donc là, comme c'était un petit peu compliqué pour moi, je suis arrêté là. Et si je l'exécute ça, en principe, pouf, je retrouve mes préfixes d'adresse MAC, mes noms d'entreprise et puis les pays qui sont associés, qui ont bien été extraits du texte. Donc là, j'ai pris une portion limitée, je sais pas, une centaine de... d'entrée, il y en a plusieurs milliers, donc ça prend un peu plus de temps avec le gros fichier, mais ça, on y arrive quand même. Donc voilà le principe hein, de convert from string, qui est une nouveauté plutôt sympa. Ensuite, OneGet et PowerShell Get, il y a des nouveautés également liées à PowerShell V5. OneGet, c'est une nouvelle façon de découvrir des packages logiciels. Donc pas que des modules PowerShell, mais get des packages. Je sais pas, on veut installer les outils sysinternals de Microsoft, on veut installer PuTTY, des choses comme ça. Pouf, on va pouvoir chercher, trouver le package et puis l'installer. C'est un peu le apt-get de Windows maintenant. Pour ceux qui voient ce que je veux dire. PowerShell get. Alors OneGet s'appuie sur une architecture avec des providers. Les providers, ça va être des types d'objets, des types de packages ou des sources, etc. Il y a un de ces providers qui est PS Module, je crois.
C'est ça.
C'est ça. Donc, qui nous permet de récupérer des modules PowerShell. Et notamment, c'est super intéressant pour les ressources DSC qui sont en plein développement en ce moment.
Ça vous évite d'aller chercher les WebKits sur la TechNet. Vous les retrouvez directement en fait, dans votre console PowerShell de manière très simple. Et vous pouvez avoir les dernières versions à chaque fois que vous l'exécutez.
Donc plutôt que d'aller utiliser PowerShell pour récupérer ces modules, on a fait une commande spécifique comme ça qui est pour ça, qui s'appelle PowerShell Get et qui va utiliser ce provider PS Module pour aller chercher des modules PowerShell. Donc le principe est celui-ci. Hein. On s'appuie sur NuGet. C'est quelque chose qui sert notamment à aller récupérer des packages sur Chocolaty, qui est une galerie publique sur Internet qu'on utilise également. Donc on a la PowerShell Gallery qui est en train de se développer. On utilise NuGet pour aller récupérer des packages ou des modules dedans. On a notre module PS Module quand on utilise par exemple PowerShell Get qui va être utilisé, qui va utiliser ça. Et puis au-dessus on a nos couches OneGet et PowerShell Legal, etc.
Les providers, vous n'êtes pas limité à ces deux providers-là, en fait. Vous pouvez vous-même créer des providers. Il en existe pour GitHub. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est en train d'en créer un pour Windows Update. Voilà, c'est quelque chose d'ouvert. C'est de l'open source, là, encore une fois. Hein. Microsoft se met enfin à faire des choses cohérentes, on va dire. Et vous avez le choix et la nécessité, si vous le voulez, de faire vos providers pour répondre à vos besoins.
Donc, par exemple, comment on peut le voir, tout ça, on peut regarder les commandes. Parce que OneGet et PowerShell Get, les noms, ces noms-là, ce sont des noms de modules, en fait. Donc, si je regarde les commandes qui sont dans le module OneGet, j'ai find package. Find package, ça va me permettre de chercher des packages. Si je fais find package, ouais, ça va être un petit peu trop long.
Non, mais voilà.
On a des choses plus intéressantes après. Et si je regarde juste simplement OneGet, OneGet, je l'ai montré, GetCommand, moins module.
PowerShellGet.
PowerShellGet, ouf. Et là, par exemple, je vais pouvoir chercher des modules, find module, par exemple, X...
X Azure, enfin voilà, s'ils vont faire du Azure, enfin, tout ce qui va commencer par X en ressources DSC, c'est des modules expérimentaux développés par les équipes Microsoft. Ouais. Et donc là, vous allez normalement voir s'afficher.
Voilà, récupérer, voir qu'il existe un module dans le repository, dans la galerie, qui s'appelle X Azure, et je vais pouvoir ensuite utiliser install module pour installer le module directement dans mon PowerShell, dans mon système local. Donc là, ça prend un peu de temps, voilà, le temps que ça traverse le périph, tout ça. On voit le repository qui est la PS Gallery, on voit la description à droite, il y a Azure et Azure Pack, hein, puisque c'est deux choses différentes. Azure, ça nous permet d'aller gérer nos VM dans Azure, et Azure Pack, d'aller gérer notre cloud privé.
Les repositories, sur PS Gallery, vous pouvez vous inscrire et proposer vos modules pour qu'ils soient accessibles à la terre entière. Hein, il faut le savoir. Et vous pouvez aussi créer vos repositories internes dans l'entreprise pour distribuer sur votre ferme de serveurs ou de workstation ces 10 modules.
Par exemple, je sais qu'il y a un module WordPress. Ah bah tiens, WordPress. T'es
pas administrateur.
Comment ? Ah, j'ai pas d'administrateur. Ouais. Bon ben voilà, j'ai pas d'administrateur. Eh bien, on va dire qu'on n'a pas le temps. Parce qu'il y a des choses plus intéressantes à montrer avec le debug, notamment.
Ouais. C'est clair que quand vous créez des jobs ou vous faisiez du remoting, hein, dans des run space, dans des workflows, des choses comme ça, pour débugger, je ne sais pas les méthodes que vous utilisiez, mais c'était quand même relativement compliqué. On écrivait des choses dans un fichier texte sur le serveur, on allait le parser après, c'était vraiment moche. Et du coup, nos amis de Microsoft, tes collègues d'ailleurs, on crée quelque chose qui va nous permettre de débugger ça de manière simple, d'aller rentrer dans les run space et d'aller voir un peu ce qui s'exécute, soit ligne par ligne, soit un débugger, hein, tout simplement, quoi. Donc je vous propose de vous montrer comment ça marche. On va peut-être couper ça. On va juste créer un petit job, voilà, qu'on va appeler démo, peu importe, et dans lequel on va créer une boucle while qui va tout le temps tourner, et une deuxième boucle qui va me faire 10 itérations et qui va être resetée après chaque 10 itérations. Donc tranquillement, on se crée ce petit job. Voilà. Il me rend la main, son nom c'est démo, l'ID c'est 4, enfin voilà, ça c'est du très classique. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir rentrer dans ce job. Et utiliser le debugger. Ah oui. J'en ai lancé d'autres tout à l'heure. Voilà. Je rentre dans le job et je vois que mon debugger a stoppé le job là où je suis rentré dans le cours d'exécution. C'est-à-dire que si je fais H, je vais pouvoir avoir les commandes disponibles et maintenant je vais pouvoir, avec S, V, avec O, naviguer dans différentes sous-parties ou parties de mon job en cours d'exécution. Par exemple, si je fais V, je vais sortir de la boucle et je vais retourner au début de ma boucle dans laquelle j'étais, quoi. Mais si je fais S, si tout se passe bien, je vais pouvoir, à chaque fois que je fais S, passer à la ligne suivante de mon script et valider, ou en tout cas voir où est l'erreur et où ce qui fait que mon job me plante, tout simplement, quoi. Voilà, donc là, j'arrive à l'itération, au star sleep. Enfin, on voit bien que ça, on peut faire du ligne par ligne dans notre débuggage, et on va pouvoir comme ça débugger notre job, que ce soit local ou en remote, de manière très simple et en tout cas beaucoup moins compliquée que ce qui était à l'heure actuelle disponible, quoi. Alors ça, c'est une chose, mais il y a, on peut faire, bon, on fait Q pour sortir du débugger. Mais il y a autre chose qui est pas mal maintenant dans les debugging de RunSpace, c'est-à-dire qu'ils se sont dit PowerShell, ouais, c'est bien, mais PowerShell, on peut créer des RunSpace et on peut les intégrer dans des exécutables. Donc ce que je vous propose, c'est de voir comment rentrer dans un process où on a un RunSpace PowerShell qui tourne à l'intérieur, et de voir qu'on peut aussi débugger ça de manière quasiment identique au debug d'un job. Donc je vous passe sur les différentes parties de qu'est-ce qu'il faut mettre comme classe pour créer une console PowerShell. Juste vous montrer que vu que je suis un feignant, j'écris l'ID du process dans la fenêtre que je vais afficher et que je lui passe exactement la même boucle en fait que je lui passais tout à l'heure dans le job. Hein. Je ne vais pas remonter à chaque fois à l'eau chaude. Donc là, je lance ce petit exécutable et on voit bien que je me retrouve avec le numéro de mon process dans le haut de ma console. Suite à ça, je lance une petite fenêtre PowerShell et j'utilise un nouveau commandlet qui s'appelle enter ps host process. Donc, auquel je vais passer l'ID de mon process, hein, ça paraît logique. Je pourrais lui passer le nom si je veux, ou un objet que je viens récupérer avec un getProcess, ça marche aussi. Alors, si ça se passe bien, donc je rentre dans mon process. Je ne suis pas encore dans le RunSpace PowerShell, hein. Là je suis vraiment dans le process. Voilà. Donc, je vais juste aller voir les commandes que j'ai à ma disposition pour faire joujou avec des RunSpace. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, donc j'ai du debug RunSpace, disable RunSpace debug, donc je peux soit le proposer, soit ne pas le proposer. Je peux voir les RunSpace qui sont dans mon process, et je peux voir les debugs d'un RunSpace en cours. Voilà. Alors je vais juste aller voir les RunSpace sur lesquels je peux aller taper. Donc le RunSpace qui m'intéresse, moi, c'est le RunSpace numéro 1. Donc je vais rentrer dedans. Voilà, donc je rentre dans le débugger de la même façon que le débugger précédent, sauf que là, j'ai pas activé le line par line, et je vois qu'il va me faire des itérations de 10 à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, si vous n'utilisez pas PowerShell au quotidien de manière avancée, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça peut vous apporter, mais je peux vous assurer que c'est une innovation majeure et une grosse avancée pour tout ce qui est debug de job à distance, quoi, d'action à distance sur vos serveurs. C'est quelque chose qu'on avait demandé et qui a mis du temps à arriver, mais qui est bien implémenté en plus. Tu peux revenir.
Ouais. Je sais pas si on a le temps de faire beaucoup de choses sur DSC,
Ouais, DSC, je vais passer la démo du coup. Je vais vous dire ce qui s'est passé en grosse mise à jour. Start DSC configuration, vous pouvez utiliser un switch qui va vous permettre d'exécuter le fichier MOF que vous avez actuellement sur votre serveur. Get DSC ressources, c'était une horreur comment c'était long à afficher les résultats précédemment. Ils ont multiplié les temps par 5. Ils ont divisé, ouais. New DSC checksum, ça c'est quand vous aviez un pool serveur en fait, vous étiez limité à utiliser des ressources locales pour créer votre checksum. Ça marche maintenant sur du share réseau. Get DSC local configuration manager, voilà, qui permet de modifier plus d'attributs, etc. Pas des grosses mises à jour, mais des choses qui vous simplifient la vie au quotidien. Les nouveaux commandes là disponibles, c'est plutôt des choses pour interagir, notamment les deux premiers, pour interagir avec des objets tierces comme Puppet, comme Chef, qui vous permettent d'updater une configuration en lançant directement une API sans avoir à gérer votre configuration d'abord et en passant par les API du LCM. Et Publish DSC Configuration va vous permettre de juste publier le fichier MOF sans appliquer la configuration sur votre serveur. Voilà, en entendant informer le LCM. Stop DSC configuration, quand vous avez une configuration qui part en sucette, avant vous arrêtiez avec un CTRL-C, ça laissait des fichiers partout, c'était pourri. Pour reprendre, c'était souvent un reboot du serveur cible qui était nécessaire. On a un commandlet maintenant qui permet de le faire de manière assez simple et qui va vous permettre de reprendre une configuration normale derrière sans utiliser un slash force ou des choses comme ça. Remove DSC configuration, ça vous permet de virer les trois fichiers MOF qui sont présents sur votre LCM. et invoque DSC configuration, ça vous permet d'exécuter la configuration que vous avez poussée avec publish DSC configuration qui est au-dessus. Les améliorations, bon, vite fait, meilleure gestion des credentials, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez avoir des fichiers MOF où les credentials sont cryptés dedans, voilà, c'est, ou chiffrés plutôt, c'est pas mal. Centralisation des reports, vous pourrez maintenant avoir un serveur sur lequel tous vos exécutions de configuration DSC, enfin tous les retours, les feedbacks que va faire LCM sont stockés dedans. Deep on zone, ça supporte maintenant, c'est bête, mais les chiffres dans le nom de vos ressources. Ça supporte aussi les ressources composites, ce qui n'était pas le cas au début. Le troubleshooting, ça rejoint un peu la centralisation des reports, hein, ça vous permet de manière plus simple de gérer votre troubleshooting. Et les partiels DSC configuration, j'en parle vite fait, mais ça mériterait presque une session tout seul. Donc ça permet, si vous voulez, de diviser avec des équipes parc, réseau, infra, chacun fait sa configuration et DSC est capable de tout compiler pour en faire une seule et même configuration et l'exécuter sur votre serveur.
Super.
J'ai fini sur DSC.
Super. Donc petit détail, hein, on sait maintenant gérer les archives zip avec deux fonctions compress et expand qui sont ce qu'elles sont, mais elles ont le mérite d'exister, donc c'est déjà pas mal. Les liens symboliques également, on sait gérer les liens symboliques directement avec toutes les commandes qui concernent les items, donc new item par exemple pour créer des liens symboliques vers des fichiers ou des répertoires directement depuis PowerShell. Et puis l'amélioration des performances com. Alors ça c'est extraordinaire, juste une démo parce que ça prend deux secondes à faire. Ça, c'était avant, donc avec l'ancien PowerShell. Je fais simplement un dir et puis je le balance dans Excel via com, via l'interface com d'Excel. C'est-à-dire que hein, je balance avec des commandes de base. J'ouvre un objet com Excel et puis je lui dis, je le commande à distance pour lui balancer toutes les propriétés de mes objets.
Ce qui reste le seul moyen actuellement d'interagir avec du Word ou du Excel, quoi.
Tout à fait. Donc ça fonctionne, mais à la vitesse de l'escargot. Voilà, ça c'est l'heure de l'escargot asthmatique. Donc je vais fermer ça. Et puis le nouveau don't save. Le nouveau PowerShell V5 donc preview, le même. Donc c'est quand même pas mal. Comme amélioration des performances, c'est quand même pas mal. Voilà. Merci.